Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Marc chapitre 2 et verset 1er. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu dans son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en la présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Voilà. Alors ça, c'est un texte qui se retrouve également dans l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc, mais j'ai choisi celui-ci parce qu'il y a une petite différence, et vous allez la découvrir au fur et à mesure, parce qu'il y a une petite annotation qui est très sensible pour notre développement de notre pensée cet après-midi. Nous sommes en présence, naturellement, de Jésus. Et puis, il y a également un homme qui lui fait face, c'est un malheureux, il est paralysé. Et puis, il y a également quatre hommes qui se trouvent là. On va voir pourquoi ils se trouvent là, ce qu'ils font, et quelle peut-être amplification au message on peut donner à travers ces quatre hommes. Et puis, derrière, il y a la foule. Alors, dans la foule, tous ces gens qui sont là, écoutez, on l'a dit, on l'a vu, hein, il nous est simplement rappelé que Jésus s'était mis un petit peu au repos dans une maison, et quand on l'a appris, eh bien, tous les gens se sont assemblés, finalement, dans les alentours, et à tel point que les gens se pressaient les uns sur les autres, et Jésus annonçait la parole de Dieu. Donc, il y avait quand même quelque chose qui pouvait être fort intéressant, c'est qu'on avait, excusez-moi l'expression, mais pisté Jésus, il avait un petit peu disparu, parce que il avait besoin un peu de se retrouver à l'écart. Et quand on a su qu'il se trouvait dans cette maison, eh bien, les gens sont venus. Et ils sont venus pour une bonne motivation, c'est-à-dire parce qu'ils écoutaient la parole et ils annonçaient la parole. Alors, ça, c'est aussi un aspect des choses. Et puis, comme à chaque fois, Jésus se retrouve face à ses détracteurs, à ses adversaires. Et il va y avoir un véritable problème théologique, là, parce que on s'aperçoit qu'ils vont être assez incisifs, assez vifs avec Jésus pour essayer de le mettre dans une situation d'embarras. Mais à partir du verset 3, et c'est là où je voudrais en arriver, pour un petit peu situer et articuler notre message, il nous est dit que des gens vinrent à lui, c'était les gens de la foule probablement, et ils amenaient un paralytique qui était porté par quatre hommes. Et ça, c'est intéressant de prendre en considération la manière dont les choses se présentent. Hein, la foule, un monde assez dense autour de cette maison, comme nous l'avons dit. Et nous voyons qu'un peu plus loin, il nous est dit, mais comme ils pouvaient l'aborder, cette maison, comme ils pouvaient aborder Jésus, eh bien, ils ont découvert le toit de la maison, c'est ce que j'ai lu, et ils l'ont descendu par une ouverture qu'ils avaient faite dans le toit pour pouvoir le mettre, eh bien, tout simplement, sous les yeux de Jésus. Et ça, c'est intéressant. Alors, vous avez remarqué avec moi, il est parlé de quatre hommes. À l'évidence, on devine que ces quatre hommes, eh bien, remplissaient une fonction en faveur de cet homme qui était paralysé. Ils le portaient, donc c'était des porteurs. Vous savez ce que c'est qu'un porteur? Aujourd'hui, on dirait peut-être pas la même chose, on dirait un brancardier. Voilà, brancardier ou avec la modernité de notre temps, eh bien, peut-être d'autres moyens. Mais toujours est-il qu'à l'époque, c'était comme ça. Cet homme était venu certainement sur une civière ou quelque chose qui pouvait, au moins d'une manière rudimentaire, porter quelqu'un qui ne pouvait pas se déplacer naturellement et qui était allongé, forcément. Alors, quatre hommes. Et nous voyons que, à travers ce chiffre que nous avons, il y a en quelque sorte les soutiens, je me plais à pouvoir le penser de cette manière, mais ça tombe sous le sens aussi, les soutiens de la délivrance et de la guérison de cet homme. Voilà. S'il n'y avait pas eu ces quatre hommes, ce paralysé serait resté probablement dans sa maison ou sur le bord du chemin, et puis bah, il ne pouvait pas, tout simplement. Il ne pouvait pas se déplacer, peut-être que lui-même... aurait eu envie d'être comme tout le monde, naturellement, quand on est frappé par une infirmité de la sorte, bien la chose qui devient le problème numéro un et le désir numéro un, c'est de pouvoir recouvrer la santé, de pouvoir marcher, de pouvoir travailler. Lui était privé de tout. Et même de l'occasion qu'il pouvait avoir, après avoir entendu parler de Jésus, forcément, eh bien, de d'autres qui pouvaient être... délivré et guéri, mais lui, il était dans cet état, il ne pouvait rien faire. Alors, il s'est trouvé quatre hommes ou quatre âmes compatissantes pour dire, eh bien, on ne va pas te laisser comme ça, nous connaissons Jésus, nous avons entendu parler de Jésus, dont la renommée commençait à se faire, dont il avait une certaine notoriété à ce moment-là, déjà, et de dire, eh bien, écoute, tu es notre ami, on sait que tu ne peux pas faire cette démarche, et pour cause, mais c'est nous qui allons te porter. Donc, nous avons à travers, tout simplement, ces hommes, eh bien, les soutiens qui nous amènent vers Dieu. Des soutiens qui sont permis. Et c'était une permission, nous pourrions dire, quelque part que Dieu avait suscité, avant que cet homme retrouve l'usage de ses jambes, eh bien, avait suscité pour qu'il vienne et qu'il s'approche de Jésus. Vous savez que, en quelque sorte, je dirais d'une manière générale et globale, que Dieu se sert aussi de ce que nous sommes, avec ce que nous savons, ce que nous connaissons, pour être, eh bien là, envoyé vers ceux qui ne peuvent pas venir, vers ceux qui sont empêchés, vers ceux qui n'ont pas les moyens. Alors, simplement ceci dit, et dans les soutiens de la délivrance, de la guérison, de l'action et de la bénédiction de Dieu, eh bien, je voudrais simplement vous les nommer. C'est une image que je prends, une forme de parabole. Je vais mettre cette histoire en parabole dans une certaine partie. Le premier soutien de la délivrance, c'est la foi. On en reparlera d'ici quelques instants. Le deuxième soutien, c'est le courage. On parlera également en quoi cet homme pouvait se caractériser par le courage. Et puis, c'est la persévérance. Parce que venir vers Jésus, c'est pas toujours très simple. C'est pas toujours facile. Il y a des contretemps, il y a des obstacles, que ce soit la part des hommes, que ce soit des obstacles naturels, on va le voir, ou autre chose. Et puis, il y a quelque chose qui est caractérisé, qui est la caractéristique de ceux qui ont véritablement vécu le grand miracle dans leur vie. Je pense à la Cananéenne. Je pense à ce serviteur de l'officier, de ce centenier qui était prêt de mourir, dont le centenier a eu une pensée géniale. Comme la Cananéenne a une pensée géniale, qui étaient tous les deux, naturellement, eh bien, des non-juifs. Et ça ne les a pas empêchés de recevoir un grand miracle, un prodige. Et là, nous voyons que il y a cet aspect des choses que c'est Dieu qui le donne. Parce que c'est Dieu qui donne tout, Faut pas se faire d'illusions, c'est Dieu qui donne les moyens, c'est Dieu qui donne la capacité, c'est Dieu qui ouvre le chemin et qui fait que, eh bien, rien n'est le fait du hasard, mais eh bien, si nous savons décoder, si nous savons nous laisser emmener, eh bien, nous allons atteindre le but. Alors, soutien de la délivrance, de la guérison de cet homme, d'abord, la foi. Vous savez que la foi, elle est indispensable. Elle est incontournable. C'est véritablement ce qui permet à Dieu. C'est pas que Dieu n'est pas capable de faire tout. Il est capable de tout faire. Il est capable de rendre l'impossible possible pour nous. Mais il attend une chose. Il attend notre confiance et notre foi. Sans cela, il ne peut rien faire. C'est pas qu'il ne peut pas faire, mais il veut que ceux qui s'approchent de lui fassent la démonstration, dans une conviction profonde morale de leur cœur, eh bien que tout leur espoir, toute leur attente, toute leur espérance est en Dieu. La foi, eh bien, fait partie justement de ces soutiens qui nous conduisent à la délivrance, qui nous conduisent à la guérison et qui nous conduisent aussi également au salut, parce que vous avez remarqué, il y a deux grands thèmes dans ce texte, c'est la guérison et le salut, la guérison et le pardon qui conduisent au salut. Et puis le courage. Alors le courage, eh bien moi je pense que pour ces quatre hommes, quatre porteurs, eh bien il y avait certainement quelque chose à faire. Ils avaient du courage de prendre cet homme, alors je ne sais pas quelle était sa corpulence ou tout ce que l'on veut, tout ce que l'on peut penser, mais ils ont eu du courage parce que peut-être qu'il venait de très loin. Ça ne nous est pas dit, on peut le penser. C'était peut-être pas forcément, là, à proximité où Jésus se trouvait dans cette maison. Avait-il fait quelques dizaines, quelques centaines, voire peut-être une lieue, Alors, c'est sûr qu'il fallait véritablement, une détermination, une énergie pour dire on va porter notre ami parce que c'est notre ami, parce qu'il est malade, lui ne peut pas, mais nous allons lui donner les jambes qu'il n'a pas. Et ça, c'est une forme de courage, de pouvoir finalement, faire ce chemin, et de payer de leur personne, parce que l'homme était probablement, c'était un adulte, il était forcément lourd, je ne sais pas, mais toujours est-il, et puis de tenir ce misérable brancard qui peut-être devait les fatiguer, leur abîmer les mains, je ne sais pas. Donc la foi, le courage, et puis il y a un troisième point aussi qui est très important en ce qui concerne ces porteurs, c'est la persévérance. Vous avez remarqué avec moi, nous sommes déjà prévenus à l'avance. Il nous est dit que devant la maison, il y avait une telle foule qu'on ne pouvait même plus la contenir. Et les gens étaient tellement absorbés par ce que Jésus disait. Ils pensaient qu'ils n'allaient pas se déranger pour laisser passer un malade. Ils écoutaient Jésus. Et leur principale motivation, c'est d'écouter Jésus. On pourrait peut-être leur reprocher, même en écoutant la parole de Dieu, qui est quand même une noble tâche ou une noble un noble intérêt. Eh bien, qu'ils étaient aussi, tous ces gens-là, remplis d'égoïsme, parce qu'il y avait peut-être quelqu'un qui avait un besoin urgent d'être visité par Jésus, que Jésus prie pour lui, et apparemment personne ne bougeait. Et ce qui a fait, ce qui a démontré, par contre-coup, la persévérance de ces porteurs, et la foi, la délivrance, la guérison, le salut, doit faire preuve de persévérance. Parce qu'il nous est simplement rappelé que cet homme, donc, était là. On ne pouvait aborder la maison en raison de la foule. Alors, ils se sont dit, maintenant, il va falloir se frayer un chemin. Et si nous voulons vraiment atteindre le but assigné par Dieu pour toucher ce dont nous avons besoin, pour être les bénéficiaires de ce que nous avons besoin, la foi, le courage, la persévérance, et puis la quatrième vertu, je pense qu'on pourrait parler de vertu cardinale, quatre vertus cardinales, en tous les cas, la perspicacité. Alors peut-être... je vais vous expliquer un peu ce que ça signifie. On voit ces quatre hommes avec le paralytique sur le brancard. Et quand ils abordent la maison, une foule, c'est noir de monde. Tous les gens sont tournés vers celui qui parle. Il y avait certainement beaucoup de gens dedans, mais il y avait aussi beaucoup de gens dehors. Et tout le monde certainement était très attentif et il ne fallait pas faire de bruit, parce que ceux qui étaient dehors ne pouvaient peut-être plus difficilement entendre. Alors j'imagine la scène, mais on peut se l'imaginer puisque le texte le suggère en quelque sorte. Et ces hommes se sont dit, mais qu'est-ce que l'on peut faire? Voilà, un obstacle majeur. On sait que Jésus est dans la maison, Jésus est la solution, Jésus est la réponse. Nous sommes venus pour ça, mais pas moyen de l'atteindre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et les hommes, ces quatre, ces porteurs, quand ils ont vu que à l'horizon immédiat, il n'y avait rien à faire, ils ont levé les yeux. Comme toutes les maisons en Orient sont faites avec une terrasse en supérieur, et ils se sont dit, si on ne peut pas rentrer par la porte, si on ne peut pas se frayer un chemin à travers la foule, il y a une chose que nous pouvons faire, c'est que nous allons monter sur le toit et que nous allons défaire finalement une partie du toit, et suffisamment en conséquence, parce que pour faire descendre un lit, il faut quand même qu'il y ait quand même un certain espace. Et tout cela, ça s'appelle de la perspicacité spirituelle. Et vous savez, quand on a la foi, quand on est sincère, véritable, que nous sommes motivés courageusement à aller jusqu'au bout, eh bien Dieu va nous donner justement les solutions pour atteindre le but. Et ça, c'est de l'intelligence spirituelle. Ça s'appelle de la perspicacité. Et humainement parlant, peut-être nous y penserions pas. Parce que si nous y pensions, je peux vous dire que les milliers de gens qui sont autour de nous, couchés sur des lits, dans les hôpitaux, dans les cliniques, et tous ceux qui sont malheureux, eh bien, s'ils avaient un tant soit peu cette étincelle de foi, Dieu leur donnerait la perspicacité pour s'approcher de Jésus et trouver des solutions devant l'impossible. C'est ça, hein? Et qui de nous n'a pas fait cette expérience à un moment ou à un autre, alors que, cherchant des moyens à droite et à gauche, butant sur des obstacles, nous décourageant devant les contretemps, avec tous les sentiments qui peuvent naître dans notre cœur, parce que nous ne pouvons pas y arriver, et à un moment donné, soit à travers un cantique, soit à travers une parole d'un ami, soit à travers un texte de la Bible, soit à travers des circonstances inattendues, nous avons une pensée à ce moment-là. Et Dieu nous dit, de la manière dont il sait nous le dire, c'est-à-dire intimement au fond de notre cœur, ce qu'on appelle des indications du Saint-Esprit, et là on se dit, il faut que je fasse ça. Et quand on le fait, on s'aperçoit que finalement la route, eh bien, est libre, et qu'on peut s'approcher, et que l'on peut recevoir à ce moment-là. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et je répète, ces quatre porteurs, alors, qu'est la foi, qu'est le courage, la persévérance, la perspicacité spirituelle, c'est le Seigneur qui nous le donne. Et voilà que ces hommes, ayant finalement cette pensée de Dieu, vont tout simplement comprendre que la route est ouverte pour aller jusqu'au bout et voir leur ami qu'ils ont porté, qu'ils ont apporté, qu'ils ont amené, être en présence de Jésus. Alors ça, c'est les quatre porteurs, mais je voudrais quand même vous dire, celui qui est porté aussi. C'est intéressant, parce que là, nous avons quatre hommes, 1, 2, 3, 4, qui sont autour, finalement, de la civière. Et puis, il y a celui qui est dedans. Et quelles sont ses impressions à celui-ci? Qu'est-ce qu'il peut ressentir? Et je crois que le paralytique, dans cette image de la foi qui construit notre foi, vous savez ce qu'il fait, cet homme? Et ça, c'est intéressant pour nous, si nous voulons véritablement nous approcher du Seigneur et recevoir de lui. Vous savez ce qu'il fait? Il ne fait rien d'autre qu'une chose la plus simple, c'est qu'il se laisse porter. Et ça suppose que si nous étions à sa place, ou si nous sommes à sa place, dans nos paralysies, nos maladies, devant les difficultés de l'existence, devant nos problèmes, devant tout ce qu'il peut y avoir, finalement, d'angoissant ou d'inquiétant qui nous rend malheureux, qui détruit notre vie, vous savez ce qu'il faut? Et ça, c'est vraiment l'illustration de la foi, c'est de se laisser porter par le Seigneur. C'est pas le plus facile, parce que c'est dépendre des autres. Quand les amis lui ont dit, mais mon ami, on va t'emmener voir Jésus. Oh, est-ce que j'avoue vraiment la peine? Moi, je suis paralytique depuis des années, vous me connaissez. Et puis, faut pas déranger Jésus, il a autre chose à faire. Regardez la foule qu'il a autour de lui, on n'y arrivera jamais. Et puis, d'autres arguments qui pouvaient être dans l'esprit de cet homme. Mais il a fait confiance, parce qu'il avait confiance lui-même. Ils se sont unis ensemble, et la confiance d'amis, ensemble, ça fait une force. C'est comme ça qu'ils ont eu du courage. C'est comme ça, qu'ils ont persévéré. Et c'est comme ça que Dieu leur a révélé cette dimension de perspicacité spirituelle qu'il fallait monter sur le toit. Le pauvre qui se laissait porter, il m'a dit, mais vous allez me casser complètement si je monte sur le toit et que vous me lâchez. Toutes les appréhensions, parce que vous savez, quand on est dans une situation de difficulté, on imagine tout le mal et on oublie le bien dans cette affaire. Mais si en cours de route, ils me laissent tomber sur la route, et puis quand ils vont monter sur le toit, moi je suis jamais monté sur le toit, je suis paralysé. Si jamais ils ratent leur coup, qu'est-ce qui va se passer? Là, je me casse complètement. Ouais, on pense toujours au pire, au lieu de penser au meilleur, vous comprenez? Et qu'est-ce qu'il fait? D'un bout à l'autre, il se tait et il se laisse porter. Il ne nous est pas dit qu'il s'est débattu, il pouvait se débattre qu'avec les bras, de toute façon. Il était paralysé. Hein, ça ne devait pas être les jambes, naturellement. Ça. Il a pu se débattre avec des paroles, avec toutes sortes de choses. Non, il se laisse porter. Et vous savez la grande difficulté de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est qu'on ne se laisse pas porter facilement. Et vous savez ce que c'est de se passer se porter facilement? C'est que nous contestons avec Dieu, nous résistons et nous discutons avec lui parce que nous voulons tout savoir avant de croire. Et Dieu nous dit, mais laisse-toi porter. Comment ça s'appelle ça? Abandonne-toi, abandonne tes fardeaux aux pieds du Seigneur. Vous connaissez le petit cantique? Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car lui sait, lui-même, prend soin de vous. Dixit Pierre dans son épître. Et puis, il y en a combien comme ça de passages dans la Bible où il est question de nous abandonner, de nous laisser porter. Alors, se laisser porter, c'est véritablement, eh bien, remettre notre situation complètement et totalement, et puis de faire confiance, tout simplement. Mais il y a le doute, il y a des suggestions qui nous arrivent dans notre tête, et il faut véritablement, eh bien, que les choses soient mûres à un moment donné, pour que, eh bien, nous disions maintenant, j'arrête de combattre, j'arrête de me défendre, j'arrête de me débattre, parce que c'est comme ça qu'on arrive au but. Alors, ils ont découvert le toit de la maison où Jésus était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Imaginez-vous un petit peu Jésus parlant, beaucoup de gens qui étaient là, y compris ces messieurs de la religion juive, qui étaient certainement en bonne place, hein. Ils n'étaient pas dehors, hein, ceux-là. Ils étaient venus avec une mauvaise intention, mais ils étaient toujours à la première place pour essayer d'enquiquiner Jésus, hein. Et puis le petit peuple qui aurait besoin d'être beaucoup plus près de Jésus, lui, il était à la porte. C'est comme ça que ça se passe, hein. Faut pas se faire d'illusions, hein. Parce que c'était monsieur de la synagogue, parce que c'était monsieur et voilà du temple, etc., etc. Alors, à un moment donné, les gens qui étaient dehors voyaient bien ce qui se passait, hein. C'est un petit peu ce cortège qui montait sur le toit. Ils se disaient, qu'est-ce qui se passe? Mais les gens qui étaient à l'intérieur, ils voyaient rien. Et à un moment donné, comme Jésus continuant à parler, à enseigner la foule, il y en a qui se sont dit, tiens, j'ai pris quelque chose sur mon chapeau. Il est tombé quelque chose. Il regarde et puis d'un seul coup, il voit un trou. Imaginez-vous, hein. Regardez au-dessus de votre tête, là, ouais. Hein. Imaginez-vous que le trou s'agrandit de plus en plus. Alors que quand on gratte, hein, c'est sûr qu'il a dû... C'était des grands travaux. Et jusqu'au moment où on arrive à faire descendre le lit, hein, parce que c'est ça, hein. Un lit, si un homme fait au grand maximum 1m70, imaginez-vous, hein, et puis de la largeur et tout ça. Mais faut prendre un petit peu la mesure de l'histoire, hein. Alors ils l'ont descendu par cette ouverture, le lit sur lequel était cet homme couché, tout simplement. Celui qui était couché en disant, vous me tenez bien. C'est là où il faut faire confiance jusqu'au bout, hein. Parce que monter c'est une chose, mais descendre, s'il y a une corde qui casse, hein, à ce moment-là, c'est quelque chose. Et puis alors, ce qui s'est passé, c'est que dans la maison, plus le lit descendait, plus ça faisait de la place, parce qu'autrement les autres le prenaient sur la tête. Donc il y avait des gens qui étaient obligés de sortir à ce moment-là. Ben oui, parce que la maison était certainement assez exiguë. Donc il y en a qui ils devaient être pas contents d'écouter, de ne plus pouvoir écouter Jésus. Mais Jésus prend le temps, hein, quand c'est comme ça. Il prêche, mais il est nécessité. Sa parole maintenant doit être mise à exécution, et sa parole va devenir une parole vivante devant tout le monde. Eh oui, c'est pas des grands discours, hein. Mais il y a des faits, il y a quelque chose qui va, eh bien, prouver la véracité de sa parole par, eh bien, ce qui va se passer plus loin. Alors, il y a une petite expression que nous retrouvons aussi dans le livre des Actes, quand Paul et Barnabas arrivent à Lystre, il nous est dit « voyant leur foi ». Voyant pas la foi du paralytique, mais la foi de ces cinq hommes, parce que c'est eux qui sont en cause. C'est eux qui sont là, et bien finalement, au devant de la scène. Voyant leur foi, et ça plaît à Jésus. Seigneur, donne-moi une grande foi pour que tu la voies. Donne-moi une grande foi pour que je te voie, Seigneur. Et vous savez, voir Jésus, c'est le voir dans l'invisible. C'est le voir sans preuve. C'est le voir et c'est lui faire confiance, tout simplement sur parole. Et de croire à sa parole que nous avons devant les yeux et que nous lisons. Voyant leur foi, il dit au paralytique à ce moment-là, chose étonnante, c'est parce que Jésus ne se trompe pas quand il fait les choses qui nous semblent quelquefois à l'inverse. Il aurait pu lui dire, mon enfant, prends ton lit maintenant, marche, parce que j'ai vu que tu étais véritablement, eh bien là, un homme d'une grande confiance avec tes amis. Non, Jésus va commencer ce qui va être un débat, une contestation, une controverse. Il va lui dire, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alors, c'est étonnant parce qu'il n'était pas venu pour entendre ça. Comprenez? Il était venu, lui, pour, dans l'espérance avec ses quatre amis, pour être guéri. Il avait la foi, hein. comme cette femme qui s'approchera, « si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. » Ça, c'est une force extraordinaire, la foi. Rien ne résiste à la foi. Elle est venue avec cette conviction et cet homme devait se dire avec ses quatre amis, « mais si j'arrive dans la présence de Jésus, si Jésus me voit et moi que je vois Jésus et que je lui fasse part de mon problème, et ça se voit mon problème, pas besoin de l'expliquer, ça se voit, je peux pas marcher. » Alors à ce moment-là, il devait dire « mais je serai guéri » parce que j'ai tellement entendu de témoignages que Jésus guérit les aveugles, les boiteux, les paralytiques et ceci et cela. Il est même capable de ressusciter les morts, de changer l'eau en vin et de faire des choses extraordinaires. Eh bien moi, je crois qu'il va le faire pour moi. Il avait raison, hein. Pourquoi les autres, toujours les autres? Mais moi, je crois que ce qu'il a fait aux autres, il peut le faire aussi pour moi. Alors, il va entendre ces paroles, mais tes péchés sont pardonnés. C'est quand même assez étonnant. Et voilà que, sur ces paroles de Jésus, il y avait là quelques scribes, ces messieurs de la religion, ces messieurs de la synagogue, qui étaient assis. Il n'y avait déjà pas de place, ils pouvaient se mettre debout pour faire. Non, mais vous rendez compte? Ils sont toujours assis. Hein. Ah, ils ne se fatiguent pas, hein. C'est pas eux qui se fatiguent le plus. Hein. Ils étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que, vous savez que le Seigneur sait tout, hein, même quand on se parle à soi-même. Eh oui, il connaît le fond de nos pensées, de nos réflexions, de nos intentions, il connaît nos mobiles. Voilà, c'est le mot. Hein. Toutes les motivations et les mobiles qui sont au fond de nos cœurs, il les connaît bien. Et ces hommes, scribes, étaient en train de grommeler, de ronchonner, de murmurer. Je ne vais pas vous citer tout le dictionnaire parce qu'il y en a une... Hein, qui se disait, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais vous en rendez compte? Il est en train de parler du péché. Il est en train de parler surtout du pardon. Parce que le problème, ce n'était pas le péché qui les gênait. C'est d'être pardonné de ses péchés. Et ça, ça faisait l'effet d'une bombe. Et il se disait, en murmurant au-dedans d'eux, « Mais comment cet homme parle-t-il ainsi ?» Eh bien, Jésus ne disait rien d'extraordinaire. En tous les cas, il ne disait pas de mal, il parlait du pardon. Mais il n'y a pas de mal à parler du pardon. Dites donc, est-ce que ce serait plus intéressant de parler de la haine et du ressentiment? Ça serait un véritable péché. Et Jésus était en train de parler du contraire. Pardon de Dieu, miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu souveraine sur toute chose. Alors ils sont en train de murmurer, mais cet homme, comment parle-t-il ainsi? Et ils vont aller jusqu'à dire, mais il blasphème. Mais qui sont-ils ces scribes pour juger? Qui sont-ils pour connaître le fond du cœur des hommes? Et surtout, qui sont-ils pour mettre en accusation des gens de cette accusation qui est une grave accusation dans la religion des Juifs? Le blasphème. Vous savez que le blasphème était passible de mort, hein, de lapidation. Vous revenez dans l'Ancien Testament, vous comprendrez. Et ils ajoutent ceci, mais qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Eh bien justement, ce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre, et tout à l'heure quand on a dit que ces hommes, ces porteurs et cet homme avaient la perspicacité, la pensée spirituelle de Dieu, en tous les cas, eux ils ne l'avaient pas. Parce que s'ils l'avaient eu, ils n'auraient pas parlé comme ça. Ils se sont pas dit les uns aux autres. Ils l'ont pensé tous en même temps. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui faisait le fond de leur cœur mauvais. C'était le préjugé. Jésus, mais qu'est-ce que c'est que cet homme? Qu'est-ce que c'est que ce prédicateur-là de ces vulgaires montagnes et collines de Galilée, mais on n'a jamais vu un Galiléen, finalement, eh bien là, devenir un grand rabbi, ou devenir un prophète? Et ils sont remplis, finalement, de ce venin à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils sont infectés, ils sont empoisonnés. La toxicité à l'intérieur, mais qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Eh bien, s'ils avaient eu cette perspicacité spirituelle, ils auraient confessé, comme beaucoup d'autres l'ont fait, mais Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même, tout simplement. Donc, ils n'étaient pas très éclairés. Et pourtant, les scribes étaient des hommes qui étaient versés, depuis tout petit, dans la loi de Dieu, ils auraient dû comprendre. Ouais. Eh bien, ce n'étaient pas ceux qui paraissaient les plus proches qui étaient les plus proches. C'est vraiment les plus éloignés et les plus étrangers à la vie de Dieu qui peut pardonner les péchés. Jésus, ayant aussitôt connu dans son esprit, hein, c'est pas de la divination, c'est pas des approximations ou des... Ouais, non, dans son esprit, ce qu'il pensait au-dedans d'eux leur dit, va leur répliquer, mais pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi vous essayez de m'accuser, de me mettre dans l'embarras avec une chose, avec des choses qui ne sont pas vraies sur ma personne et sur ce que je suis. Mais pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Vous savez, je voudrais dire ça, c'est une parenthèse, mais à partir du moment où nous voulons vraiment que Dieu agisse pour nous, il faut faire le nettoyage dans nos cœurs. C'est pour ça qu'il est question de parler. Il est question de... Et nous avons parlé du pardon d'abord. Ça, c'est important. Alors, lequel, dira Jésus, est le plus aisé de dire au paralytique « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Alors là, c'était vraiment un problème. Hein. C'était très, très difficile pour eux. Alors, messieurs, vous êtes en train de critiquer la situation. Vous êtes en train de supputer des choses sur ma personne, ma capacité. Vous êtes en train de me traiter de blasphémateur. Alors écoutez, allez-y maintenant. Voilà, vous avez un homme qui est devant vous. Il est paralysé, on remet les choses en place. Voilà, il est devant vous. Il a besoin de quoi, cet homme? Il a besoin de guérison? D'accord, on est tous d'accord. Eh bien maintenant, moi je vais vous faire une démonstration. Mais vous allez d'abord me répondre. Eh bien, lequel d'entre vous, messieurs les scribes et tout ce que vous êtes, lequel est le plus aisé? Qu'est-ce qu'il est le plus facile de faire? De pardonner les péchés ou de guérir cet homme? Là, c'est le silence. Là, on ne peut rien dire. Parce que ça semble facile de pardonner les péchés, de dire une parole, je te pardonne les péchés. Ça semble facile. Parce que ça, c'est le monde invisible. C'est le monde intime. C'est le monde... finalement, de l'âme, du cœur, de la vie intérieure, du secret, ça ne se voit pas. Ou alors de dire, prends ton lit, va et marche. Alors Jésus va leur donner une leçon magistrale. Et là, ça aurait dû les amener finalement à se convertir. D'abord à se taire. Et puis d'arrêter leur calomnie et leurs outrages à l'égard de Jésus et de se taire. Et... aussitôt, Jésus va leur dire, écoutez, personne ne répond. Vous ne m'avez pas donné la solution? Eh bien, moi, je vous la donne. Il se tourne vers cet homme. Tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir. Parce que c'est ça la grande difficulté. Le pouvoir, la capacité, la faculté d'en haut du ciel de Dieu. De son Père Céleste, eh bien, de pardonner les péchés, comme ça vous aurez l'assurance, et qu'on n'y revienne pas, c'est pas la peine, mais vous avez l'assurance que ce monde spirituel, cette grâce de Dieu manifestée de cette façon à la garde d'un homme qui souffre, eh bien, moi je vous le dis, j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, et je vais vous le prouver en guérissant cet homme, et aussitôt, « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Il le dit, mais c'est fait. À l'instant même, il se leva, il prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte que tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant hey, « Nous avons vu, nous n'avons jamais rien vu de chose pareille. » Et ça, c'est vraiment étonnant. Hein. Et c'est ça, justement, la grande question. Parce que Jésus leur a donné une leçon magistrale. Ouais, mais quelque chose de bien, hein. Il en avait vraiment besoin. Hein. Pour dire, eh bien, écoutez, vous qui parlez, vous qui discutez, vous qui discutaillez, qui êtes en train d'épiloguer, d'analyser de ceci et cela, de couper les cheveux en quatre, et autant que vous voulez, eh bien, moi, je vous prouvais que moi, j'ai la capacité de pardonner. J'ai la capacité de libérer un homme d'une autre paralysie que celle de son infirmité, peut-être qui est peut-être la conséquence, finalement, de son infirmité. Je ne veux pas l'affirmer. Mais toujours est-il que l'on peut en déduire la chose ainsi, c'est que Jésus a fait la démonstration qu'il avait les deux pouvoirs. Le pouvoir miraculeux de guérir cet homme et qui allait prouver, comme ça se passe dans l'invisible, c'est difficile à dire, mais qu'il avait le pouvoir aussi de pardonner complètement et totalement les péchés. Et cette preuve de pardon, cette preuve d'absolution de Dieu, cette preuve de salut en quelque sorte, eh bien, il a fait la démonstration en disant à cet homme, maintenant tu prends ton lit, tu marches, et cet homme s'est levé, et c'est ce qui s'est passé. Ah oui, et c'est ça justement ce qui est difficile. Parce que vous savez, l'homme est ainsi fait, c'est qu'il veut voir pour croire. Et c'est ainsi que les choses nous sont présentées à l'envers. Jésus commence à faire le travail dans l'invisible, et ensuite il donne la preuve, mais ça aurait dû être le contraire qui aurait dû se produire. C'est-à-dire, les gens auraient dû dire, bon, on ne discute pas, on croit que tu es le Fils de Dieu, on croit que tu as le pouvoir, si tu dis que tu peux pardonner les péchés, eh bien, on ne va pas discuter. Vous avez remarqué, hein, ce n'était pas pour le paralytique que Jésus a dit ça, ce n'était pas pour ses amis qu'il a dit ça, mais c'était un formidable message pour toute la foule qui était là, dont les plus paralysés, c'était encore les scribes et tous ces gens de cet acabit. C'était eux qui étaient les paralysés de l'intelligence spirituelle, qui se disaient les plus intelligents de tous, paralysés dans leur conscience, paralysés dans leur cœur, parce que leur paralysie, finalement, eh bien, les empêchait de voir la vérité et de comprendre qui était Dieu et sa capacité infinie de faire du bien. Et le bien, il s'est porté dans les jambes de cet homme, parce qu'il a retrouvé la santé, et il s'est porté aussi dans son cœur et dans son âme. Et c'est pour montrer que Dieu est le Dieu de tout, que Dieu est le Dieu de toute capacité, et qu'il est capable de faire des choses extraordinaires. Alors nous avons dit très brièvement cet après-midi, ces soutiens de la foi, je les rappelle, les soutiens de la délivrance, du salut, du pardon, la foi, le courage, la persévérance et la perspicacité. Et s'il y a une chose que nous avons besoin de comprendre, eh bien, si nous nous mettons un tant soit peu pour quelques instants à la place du paralysé, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de nous laisser porter, vous comprenez ? Porter par la foi. Porter dans la foi. Et je pense que ça a été tellement fort, cette histoire, qu'elle a été rapportée par Matthieu. Elle est rapportée par Marc, là, le texte que nous avons pris. Elle a été rapportée également par Luc. C'est pour vous dire l'importance. Et la foi de ces hommes, de ces cinq hommes, et puis aussi l'adversité qu'il pouvait y avoir, hein, cette opacité dans cette foule qui se serre les coudes et qui ne veut laisser passer personne, et puis également la méchanceté du cœur de ceux qui sont à l'intérieur et qui sont en train d'outrager Jésus dans sa personne et dans sa capacité, dans son pouvoir. Alors je pense que tout cela, eh bien, nous est rapporté pour nous montrer encore une fois de plus que Dieu sait tout, il connaît tout, et que nous avons tout simplement à lui faire confiance. Vous savez, Jésus nous a dit cette parole, et je voudrais terminer sur celle-ci. Il nous a dit, tout ce que vous demanderez par la prière, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Eh bien, c'est ça. Voilà. Seigneur, donne-moi de rencontrer les porteurs dont j'ai besoin pour aller jusqu'au bout et atteindre finalement le but que tu t'es assigné pour moi. Oui, nous en avons besoin. Alors donne-moi de la foi, donne-moi du courage, donne-moi de la persévérance, de ne pas m'arrêter devant les obstacles, et donne-moi également la pensée de Dieu. Moi, j'ai trouvé que Dieu a des pensées géniales pour chacun d'entre nous. Oui. Même le plus souffrant, le plus malheureux, le plus désespéré, Dieu est capable de lui donner des pensées géniales. Fallait monter sur le toit, hein. Fallait y penser pour... Et il y est arrivé, finalement. Mais il y est arrivé parce que, véritablement, eh bien, Dieu leur avait ouvert la porte. Et ça a été une formidable leçon pour tout le monde. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce, et que nous gardions cette leçon, que nous gardions cela au fond de notre cœur, et que le Seigneur nous conduise, parce que moi je pense que le Seigneur ne veut pas que nous restions paralysés, vous comprenez ? D'une façon ou d'une autre, dans nos jambes, dans notre corps, dans nos organes, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos pensées, dans notre esprit. Le Seigneur est un Dieu de liberté, un Dieu de délivrance, un Dieu de guérison, un Dieu de pardon, il faut en tenir compte, Dieu pardonne. Et ce pardon de Dieu ouvre la porte à toutes les guérisons, à toutes les délivrances, en d'autres termes au salut. Alors on va prier quelques instants simplement. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ces belles histoires de la Bible. Oui, Seigneur, elles nous sont données, consignées, elles nous demeurent, elles restent pour nous, Seigneur. Eh bien, comme autant de moyens de réflexion, de nous approcher de toi, et d'édifier, de construire, de bâtir notre confiance en toi. Merci, Seigneur, parce que si tu as permis ces porteurs, eh bien, tu nous as donné aussi des soutiens pour nous, que nous avons besoin de réaliser. Et Seigneur, merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. C'est toi qui nous ouvres la route pour venir à Jésus. C'est toi, Seigneur, qui abat les obstacles, quels qu'ils soient. Et nous voulons te rendre grâce parce qu'à un moment ou un autre, lorsque nous sommes à bout de ressources, dans les moyens, Seigneur, que nous pouvons imaginer nous-mêmes, eh bien, il y a toujours une chose que nous n'avons pas pensée. Et c'est la chose précisément, Seigneur, qui vient de toi et qui nous conduit directement à la délivrance. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, aide-nous à nous laisser porter. laissez porter par toi, laissez porter par tes promesses, laissez porter par ta parole, laissez porter peut-être par le témoignage de nos amis, Seigneur, qui nous ont parlé, Seigneur, de la grâce merveilleuse que nous avons en Jésus-Christ. Seigneur, tout cela, eh bien, tu le réserves pour celui qui veut s'approcher de toi, malgré, Seigneur, toutes ces infirmités, ces paralysies. Tu es celui qui délivre et tu es celui aussi qui pardonne complètement et totalement. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons, notre Père céleste. Merci, Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.